qu'on est en train de mettre en place des capteurs qui peuvent piéger les odeurs corporelles, les odeurs humaines. Quand on a vu l'appel à projet Attentat Recherche, on s'est dit qu'on pouvait utiliser cet outil pour faire de la reconnaissance de personnes.
Ce qui va nous intéresser, c'est comment cette capacité à venir supprimer des réseaux de la mémoire va contribuer à prédire, entre guillemets, leur capacité à aller mieux.
Le ministère de la Défense a annoncé un plan défense cinéma. C'est un début de collaboration entre le ministère de la Défense et l'industrie du divertissement.
Un an après les attentats du 13 novembre, que nous dit la science du terrorisme et surtout que peut-elle faire? Quelle réponse peut-elle donner? Que peut nous apporter la recherche en matière de sécurité, de prévention? Que peut-elle cette science pour les victimes? Comment participe-t-elle à cette résilience dont la société française doit chaque jour faire preuve depuis le début de la vague d'attentats que nous connaissons? La mort en novembre 2015 de 130 personnes dans le pire attentat jamais commis sur le territoire français à Paris et à Saint-Denis a suscité dans la communauté scientifique un élan auquel ce magazine est consacré. Un élan qui, finalement, comme un pied de nez aux terroristes, oppose à l'obscurantisme une réponse scientifique éclatante. C'est d'une mobilisation en blouse blanche que nous allons parler ce soir. 13 novembre, la recherche contre la terreur, un magazine de la rédaction signé Florence Turme. Et notre invité aujourd'hui, Thierry Delville, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué aux industries de sécurité au ministère de l'Intérieur. Nous aurons tout à l'heure, à l'issue de la diffusion du reportage de Florence Turme, des questions pour vous. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Quelques jours seulement après le 13 novembre 2015, Alain Fuchs, le président du CNRS, a lancé un appel à la communauté scientifique qui se voit, écrivait-il à l'époque, renvoyée à l'essentiel pour comprendre dans le détail et avec toute la profondeur nécessaire les phénomènes qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, cet appel à propositions scientifiques très large concernait tous les sujets pouvant relever des attentats et de leurs conséquences pour ouvrir la voie à des solutions nouvelles, sociales, techniques, numériques. Les projets ont été très nombreux, portés souvent par de jeunes chercheurs sur des terrains disciplinaires divers. 57 projets ont été retenus par le CNRS et vous avez, Florence, vous, choisi de nous en présenter trois ce soir, trois projets très différents qui vont nous conduire tout au long de votre reportage à Caen, à Toulouse et à Paris.
Oui, alors Toulouse avec le projet d'Alexandra Terral et Émile Pérez qui ont mis au point un capteur d'odeur capable de stocker des odeurs corporelles ou des résidus d'explosifs. Paris avec la recherche menée par Pauline Blisten et Olivier Chopin sur deux séries télévisées que vous connaissez peut-être, Homeland et Le Bureau des Légendes, la représentation fictionnelle des terrorismes et des acteurs de la lutte antiterroriste. Enfin Caen, où l'INSERM développe une étude biomédicale sur l'impact des attentats du 13 novembre sur le cerveau. C'est une étude qui s'inscrit dans le cadre d'un grand programme de collecte de la mémoire collective. L'INA a commencé à recueillir la parole d'un millier de volontaires, des personnes touchées de près ou de loin par les attentats du 13 novembre qui reviendront à intervalles réguliers pendant 10 ans, témoigner au fil du temps de leurs ressentis. Et à ce volet historique et sociologique porté par Denis Péchanski, se greffe donc cette étude biomédicale organisée à Caen sous l'égide du professeur Francis Eustache.
Et on va justement commencer avec cette étude, Florence, et on va partir donc à Caen. Vous avez d'abord rencontré Marc, l'un des volontaires qui ont choisi de prendre part à cette étude.
Au 13 novembre, j'étais pas assez loin et pas assez près, en fait, pour diverses raisons, mais j'étais au restaurant à République, et au moment de payer, on nous a interdit de sortir, on a été cloîtrés dans le restaurant. Ça a duré 2h30, et puis la BRI rentre, nous exfiltre, et puis on se retrouve dans les rues de Paris, en sachant que 3 ou 4 personnes sont pourchassées dans ces rues, et nous on est là au milieu, et on sait plus trop quoi faire. Donc voilà, et cette situation-là est un peu ambiguë pour moi, parce que dans mon souvenir et dans ce que j'ai vécu, c'est difficile de se sentir victime quand on n'a pas été au cœur de l'action.
C'est pour ça que vous dites pas assez loin, pas assez près.
Voilà, exactement. Pas assez loin, pas assez près, parce que pas assez près pour me sentir réellement victime. J'ai pas vu de mort, j'ai pas vu de sang, j'ai pas vu de terroristes, j'ai pas vu d'armes. Donc pas assez près, et puis pas assez loin, parce que malgré tout, on a été cloîtrés pendant 2h30 dans un restaurant. Donc voilà, c'est une situation un peu particulière émotionnellement parlant. C'est ça qui a été compliqué à gérer, de se sentir victime là-dedans.
Aujourd'hui, vous êtes plus en accord avec ça, vous dire « je suis victime », on peut être victime à des degrés divers finalement.
Oui, alors aujourd'hui je le comprends, intellectuellement je comprends que oui, j'ai été une victime, mais j'arrive pas forcément à le ressentir. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a incité à participer, puisque c'est un acte volontaire, au programme Remember?
Alors justement, c'est cette espèce d'entre-deux chez moi qui m'a incité à faire ce travail-là, à participer à cette recherche-là. En tout cas, j'ai envoyé un mail en disant ce que j'avais vécu, comment je l'avais vécu, et en disant « je pense pas que ça puisse vous intéresser, mais voilà ». Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'effectivement ça les intéressait.
Alors comment ça se passe à l'INSERM?
Alors à l'INSERM, ça se passe sur 2 jours. On est d'abord accueilli, on est très bien accueilli d'ailleurs. On a d'abord une sorte de petit test d'entrée avec une psychiatre sur les antécédents nerveux, psychiatriques, etc. Après, on a une série de tests psychologiques qui durent une bonne journée en fait, qui permettent de cerner l'ensemble de ce qu'on est en fait au niveau de la mémoire, au niveau de l'émotionnel, comment on réagit dans telle ou telle situation. Voilà, il y a des questionnaires sur le souvenir en général, donc sur toute notre vie, surtout voilà. Et après il y a des questionnaires sur le souvenir du 13 novembre. Voilà.
On passe par là ? Donc l'entrée principale de Cicéron, c'est ça, c'est tout ça Cicéron. Ça héberge plusieurs unités de recherche dans des domaines...
Comme 120 autres volontaires, Marc a passé 2 jours à l'INSERM, à Caen, 2 journées très denses, entre Cicéron, la plateforme d'imagerie médicale dédiée à la recherche, et juste en face, de l'autre côté de la voie de tram, le tout nouveau pôle de formation et de recherche en santé, dirigé par le professeur Francis Eustache, qui coordonne l'étude Remember.
On s'est dit, il faut absolument qu'on travaille sur le syndrome de stress post-traumatique. C'est un syndrome qui est très peu connu, surtout en France. Disons que la cause la plus fréquente en temps de paix sont les agressions sexuelles. Donc on connaît un petit peu des choses sur les agressions sexuelles. Mais dans cette situation très particulière des attentats qui peuvent se reproduire, on connaît très peu de choses. On ne sait pas pourquoi, mais certaines personnes sont résistantes, sont résilientes, c'est-à-dire qu'elles vont développer un stress aigu, puis en quelques jours, les choses vont se résorber, alors que d'autres, au contraire, vont conserver des symptômes très longtemps. On ne connaît pas tout ça. Puis c'est très important pour comprendre de façon plus fondamentale le travail de la mémoire, toujours avec cette idée qu'il y a cet individu, puis il y a l'environnement de cet individu. En fait, l'élément clé, c'est un trouble de mémoire. Le cœur du syndrome, c'est un trouble de mémoire, c'est une distorsion de la mémoire, avec comme dominante des pensées et surtout des images, une sensorialité avec beaucoup d'émotions qui envahit la personne.
Et qui peut l'envahir à n'importe quel moment.
Alors, la personne, dès qu'elle est en contact avec un élément qui lui rappelle cet événement traumatique, c'est l'événement traumatique qui va s'imposer à elle. Donc, mais ça peut être une pensée, ça peut être une perception. Et alors, ce qui va aussi alimenter le syndrome, qui va le complexifier, c'est que la personne se rend compte de ça et va essayer de trouver des mécanismes d'évitement. Et donc, toute sa vie va s'organiser autour de cette lutte entre ces images qui s'imposent à elle et puis la capacité ou non d'éviter, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'évitement, d'éviter ces pensées récurrentes et ces images récurrentes, qui ont une particularité qui explique pourquoi elles terrorisent la personne, c'est que en fait, le souvenir traumatique, ce n'est pas un souvenir. On l'appelle comme ça, parce que je pense que c'est plus simple de l'appeler comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas un vrai souvenir, parce qu'un souvenir, il est destiné à se modifier. En tout cas, le souvenir, il ne va pas rester comme ça, comme photographié, alors que le souvenir traumatique... Lui, certains éléments de ce souvenir vont rester quasi indélébiles. Tout du moins, tout le temps qu'ils sont traumatiques, ça va être ça. Et la grande particularité, c'est qu'ils sont vécus par la personne comme s'ils étaient au présent, comme si c'était du présent. Alors qu'un souvenir, si on pense à ce qu'on a fait, je pense, samedi soir dernier ou les grandes vacances dernières, quand on est allé, je sais pas, à la plage ou à la montagne, ou je sais pas quoi, même s'il y a des images qui nous reviennent, et on sait que ces images, elles font partie du souvenir, même si elles sont modifiées, etc. Mais ça, c'est un petit peu du détail. On sait que c'est du passé. Donc c'est là-dessus qu'on a choisi de travailler. Mais avec bien sûr un prérequis, c'était qu'il n'était pas question, bien entendu, de montrer des images traumatiques. On n'allait pas faire venir des personnes de Paris qui avaient vécu ces moments dramatiques pour leur montrer des images traumatiques. Enfin, ça va de soi.
À Caen, les volontaires peuvent venir seuls ou accompagnés d'une personne de leur choix. Le calendrier prévoit deux autres rendez-vous sur place en 2018 et 2021 et des entretiens téléphoniques tous les 6 mois avec des membres de l'équipe qui viennent prendre de leurs nouvelles, faire le point sur leur évolution personnelle. C'est également un choix. Les grands blessés des attentats ne participeront pas à cette étude. Ceux qui ont été retenus appartiennent à 4 cercles différents, fonction de leur degré d'exposition aux attaques terroristes. Voilà. Donc on vous appelle Sophie, tout simplement.
Tout simplement, oui, je veux bien, merci.
Bonjour Sophie.
Bonjour. Donc je m'appelle Sophie, j'ai bientôt 41 ans, je les aurai le 14 novembre, et je suis enseignant-chercheur, je m'intéresse à la stratégie d'entreprise, et j'enseigne le marketing également.
Vous étiez au Bataclan ?
Tout à fait, j'étais au Bataclan pour fêter mes 40 ans, en fait, puisque c'était le lendemain, avec un ami qui est aussi un très bon apnéiste, on partage cette passion, Guillaume, et voilà, on avait décidé de faire la fête ce soir-là tous les deux.
Vous venez de parler de votre passion pour l'apnée, c'est quelque chose qui vous a été utile en l'occurrence ?
Oui, alors donc l'apnée sportive, c'est pas forcément très connu, mais simplement pour que vos auditeurs le comprennent, c'est un sport où on va essayer de faire des choses dans l'eau sans respirer le plus longtemps possible. Et je me suis servi de ça au Bataclan, donc j'étais dans la fosse. Quand ça a commencé à tirer, je me suis tout de suite couchée au sol et j'ai senti que je paniquais. Et à ce moment-là, je me suis servi de techniques qu'on apprend en apnée pour faire descendre très très vite mon rythme cardiaque et réussir à me calmer pour tout simplement essayer d'avoir l'air le plus morte possible. On apprend à ne pas bouger du tout et à tout relâcher, relâcher tous ses muscles en apnée. Je me suis servi de ça.
Et ensuite, vous avez décidé de courir.
Et ensuite, à un moment, effectivement, j'ai décidé de courir, puisque à un moment, les terroristes ont commencé à abattre des gens les uns après les autres, parce que le téléphone sonnait, parce que quelqu'un disait quelque chose, etc. Et j'étais sûre que j'allais mourir, mais je voulais pas mourir comme ça. Donc j'ai décidé de me lever, et j'ai décidé que je mourrais en courant. Sauf que ils m'ont pas eu, et que je suis sortie en courant par l'entrée principale, voilà, et j'ai pu ensuite me mettre à l'abri.
Aujourd'hui, vous avez décidé à accepter de participer au programme Remember. Comment ça se passe, très concrètement ?
J'ai fait, par exemple, des exercices dans une IRM. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce qu'on m'a fait faire correspond vraiment à une des choses que j'utilise concrètement depuis le 13 novembre pour ne pas subir les effets des attentats. Alors, je vous explique. Depuis le 13 novembre, à chaque fois que je vais dans le métro, par exemple, j'y pense. Ça dure un quart de seconde, ça m'a jamais empêché de prendre le métro. Mais n'empêche que j'y pense et je repousse ces pensées. Et quand je suis allée à l'INSERM, on m'a fait faire un exercice comme ça. Alors évidemment pas avec des images traumatisantes pour moi, mais on m'a fait apprendre des paires mots-images. Alors je vous donne un exemple qui paraît absurde comme ça, mais il y avait le mot... je peux peut-être pas le dire pour pas fausser l'expérience. Donc je vais dire autre chose. On aurait pu par exemple me donner le mot table et me le faire associer à une image de bateau. Donc je dois prendre table, image de bateau. J'en apprends comme ça à peu près 25, ça prend une heure et demie. Et ensuite, on va m'envoyer dans l'IRM et me fait faire exactement le contraire. C'est-à-dire ces associations que j'ai ancrées très profondément en moi, en jouant à la bonne élève, voilà, et ben on va me demander de les repousser. Et donc dans l'IRM, on me donnait un mot, table, et je devais absolument repousser l'image de bateau si tant est qu'elle venait. Mais j'avais bien fait mon travail d'apprentissage, donc elle venait, cette image. Et c'est très difficile de repousser comme ça une image qui envahit votre cerveau. Donc voilà le genre de choses que j'ai pu faire. Il y a eu d'autres types d'expériences. C'est très, très fatigant mentalement, ce qui me permet aussi de comprendre pourquoi moi, je peux me sentir fatiguée par moments et pourquoi je l'ai été beaucoup après les attentats. Mais c'est très intéressant parce que j'arrive à comprendre ce qui se passe un peu dans mon cerveau et je me rends bien compte que leur expérience, effectivement, elle a un lien très très direct avec des choses qui peuvent me faire souffrir et donc je me dis, mais ce qu'ils vont trouver, ça va pouvoir aider à mieux comprendre et donc peut-être à proposer des solutions pour des gens qui n'arrivent pas à repousser ces images traumatisantes ou ce genre de choses.
Du coup, vous diriez que c'est à la fois une recherche pour la recherche et une recherche sur vous aussi ?
Il y a un effet thérapeutique. C'est pas du tout le but de l'étude de l'INSERM. Elle a pas ce but-là. Mais moi, en l'occurrence, En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que je fais de temps en temps des crises de panique parce que j'ai associé l'apnée au Bataclan, donc je fais des crises de panique sous l'eau. Eh bien, savoir comprendre concrètement ce qui se passe physiologiquement dans mon cerveau à ce moment-là, moi, ça m'aide. Ça évite pas complètement les crises, mais ça m'aide à mieux les supporter, à faire que je peux reprendre l'activité plus vite.
Alors, comment étudier la capacité du cerveau à ignorer ou à tenir à distance les images traumatiques des événements vécus? Pas question effectivement de faire revivre ces souvenirs aux volontaires quand ils s'installent dans l'IRM pour l'examen d'imagerie cérébrale. Le sujet n'est pas pour autant passif, il doit se livrer à un exercice précis, un paradigme développé par le chercheur Pierre Gagnepin.
On va utiliser un paradigme qui s'appelle le paradigme think-no-think, durant lequel on va faire apprendre aux gens des paires de stimuli. En l'occurrence, ici, ce sont des mots associés à des images. Alors, ce sont des images du quotidien, comme une table, une chaise, ou des objets très, très usuels. Et on fait apprendre ces paires de mots, objets, par cœur. Ça va être, par exemple, le mot stylo associé à une image de lunettes, par exemple. Donc, la personne, on lui présente cette paire. On va passer un certain temps à lui faire apprendre cette paire par cœur, si bien que lorsqu'on lui montre le mot stylo, l'image des lunettes reviendra automatiquement à son esprit. Et cette association presque automatique, on va s'en servir entre guillemets pour voir comment l'individu peut ensuite la contrôler et la supprimer de sa mémoire. Et donc on va installer les participants donc sous l'IRM, qui nous permet de mesurer l'activité du cerveau pendant que le sujet réalise une opération mentale, une tâche mentale. Et donc on présente les mots que le sujet a appris sous cette caméra. L'astuce, c'est qu'on va, dans certains cas, on va présenter ces mots en vert. Et là, on lui demandera de visualiser dans son esprit l'image associée aux mots. Et donc, on va voir toutes les zones de la mémoire et toutes les zones du cerveau qui permettent de revivre, de visualiser dans son esprit un souvenir. On va voir toutes ces régions qui vont s'activer, qui vont se coordonner entre elles pour faire ressurgir à son esprit l'image associée aux mots. Et de temps en temps, on va présenter les mots en rouge. Et là, l'instruction qu'on donne aux personnes, c'est de tout faire pour surtout ne pas penser à l'image associée, de maintenir son attention sur le mot, tout en vidant son esprit. Et si jamais l'image revient à son esprit, ce qui est fréquemment le cas, notamment au début, parce que ce n'est pas une tâche évidente, de tout faire pour chasser l'image de son esprit. Et là, ce qu'on observe, au contraire, c'est ce qu'on appelle un réseau de contrôle qui va émerger dans le cerveau et qui va venir, entre guillemets, taper ou supprimer les zones de la mémoire. Et la conséquence de cette suppression, en fait, on peut l'observer, on va dire, de façon subséquente. Ce qu'on va observer, c'est que les gens ont plus de difficultés pour accéder à ces souvenirs supprimés, à ces souvenirs pour lesquels on ne leur a pas demandé d'oublier, on leur a simplement demandé de ne pas penser. De même manière que vous essayez d'écarter de votre mémoire un souvenir de vacances pendant que vous essayez de rédiger un article, cette capacité à écarter de sa conscience un souvenir qui vient interférer va en fait non seulement chasser le souvenir, mais également le dégrader, l'altérer. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement comment cette capacité à venir supprimer des réseaux de la mémoire va contribuer à l'évolution symptomatologique des personnes, c'est-à-dire est-ce que ça va prédire, entre guillemets, leur capacité à aller mieux dans le futur. Et c'est pour ça que ce projet, en fait, c'est un projet qui va durer 5 ans, durant lequel on va mesurer ce mécanisme, cette capacité, chez des personnes qui ont été soit exposées, soit qui n'ont pas été exposées aux attentats. Et on va réeffectuer les mêmes mesures dans 2 ans et dans 5 ans.
Vous vouliez me montrer quelque chose alors
Pardon, excuse-moi, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Donc à parler et à chercher, pour moi, c'est juste pas possible. C'était simplement pour vous montrer le protocole. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu'en fait cette altération dépendait non pas d'une incapacité à accéder à un souvenir qui est toujours intact, mais vraiment dépendait d'une altération du souvenir même. Donc c'est pas juste le fait qu'on peut plus accéder, qu'on a bloqué le chemin d'accès entre guillemets en supprimant un souvenir de sa mémoire, c'est vraiment le fait qu'on a altéré le contenu même du souvenir qui fait que le souvenir va être moins vif, moins prégnant et va se réactiver de manière moins intense. Alors ça, c'est le réseau que je vous expliquais tout à l'heure de façon verbale. Donc on voit qu'il y a toute la partie latérale du cortex préfrontal associée à cette partie pariétale. Et
Là, je vous montre deux images de cerveau sur deux études différentes. Je pourrais vous montrer 3, 4, 5, 6 études différentes sur la même tâche et ça sera toujours le même réseau qui ressort à chaque fois. C'est un réseau qui est extrêmement bien décrit, extrêmement stable. Donc l'intrusion, elle va déclencher un ensemble de réactivations au cerveau. Et donc le cerveau peut venir, entre guillemets, taper sur ces régions-là pour bloquer leur réactivation. Donc là, on parle plus de suppression ou d'inhibition de la mémoire qui, à terme, peut éventuellement altérer l'intrusion, la supprimer quelque part et altérer le contenu du souvenir de telle sorte qu'elle va de moins en moins vivide et moins ressurgir à l'esprit.
Autre sujet proposé et retenu par le CNRS, nous sommes à Toulouse, Université Paul Sabatier. Tout au fond du campus, le laboratoire des interactions moléculaires et réactivité chimique. Un duo de chercheurs a mis au point un capteur d'un nouveau genre, de la taille d'une pièce de monnaie, à partir d'un matériau très absorbant, un organogel poreux qui capte rapidement les odeurs environnantes et les emprisonne aussitôt.
Donc Alexandra Terral, chargée de recherche au CNRS. Je suis dans le laboratoire des IMRCP depuis 2011 et je développe les capteurs en organogel poreux que mon collègue Émile Pérez a inventé il y a quelques années.
Et donc vous êtes Émile Pérez.
Émile Pérez, donc je suis directeur de recherche au CNRS et également co-animateur d'une équipe de recherche, l'équipe dont fait partie Alexandra, qui est l'équipe SMOD, qui veut dire Système Moléculaire Organisé et Développement Durable. Donc nous sommes une petite équipe qui fait partie du laboratoire des IMRCP ici à Toulouse.
Avec Émile, on s'entend bien et puis on n'a jamais de limite à notre imagination. Donc si on a une idée, il n'y en a jamais un qui va dire qu'il faut laisser tomber et on va essayer, même si c'est au début un peu du bricolage, enfin on va prendre notre t-shirt pour voir si on peut sortir les odeurs de notre t-shirt pour démarrer ou des choses comme ça. Enfin, et il n'y a pas de barrière pour aller développer ces nouvelles idées. Donc on est en train de mettre en place des capteurs qui peuvent piéger les odeurs corporelles, les odeurs humaines, pour ensuite en faire un outil biométrique pour faire de la reconnaissance de personnes.
Puisqu'en fait, chaque odeur est typique d'une personne, une caractéristique d'une personne. Il faut imaginer qu'en fait, ce qui fait l'odeur corporelle d'une personne, c'est plusieurs strates, plusieurs niveaux d'odeur. On a l'odeur de base, qui est vraiment caractéristique d'un individu, qui, elle, est liée, je dirais, beaucoup aux microbiotes, en fait, aux bactéries qui sont présentes sur notre peau, qui vont générer une odeur caractéristique. Ensuite, il y a l'odeur liée à notre nourriture, à notre alimentation. Ensuite, une autre strate d'odeur, c'est les cosmétiques, qu'on utilise de plus en plus d'ailleurs. Et après, il y a les odeurs que la personne peut aussi véhiculer, selon l'endroit où la personne s'est déplacée, par exemple. Donc, on a tout un ensemble d'odeurs, mais de cet ensemble d'odeurs, c'est justement le challenge un peu de ce projet, il va falloir aller rechercher ce qui fait vraiment l'odeur propre d'une personne, de façon à pouvoir l'identifier, grâce à cette odeur corporelle parmi d'autres suspects et à partir des odeurs qu'on aura récupérées sur le terrain.
Si vous voulez, on peut vous montrer déjà à quoi ressemblent les capteurs.
Volontiers.
Donc on a ici des petits échantillons.
Oui, mais alors, menthe ?
Oui, c'est l'odeur de menthe. Donc voilà.
Donc vous avez piégé la menthe ?
Oui, voilà, on a piégé la menthe il y a un an et demi et vous voyez, l'odeur est restée dans le matériau. Et sinon, donc l'aspect de ces petits capteurs, ça ressemble un petit peu à de la bougie. Ils sont poreux, donc ils sont un peu fragiles. Donc quand on veut les utiliser pour piéger sur le terrain, il faut les protéger dans une petite cage métallique. Enfin, moi, j'utilise des boules à thé. Parce que je bois du thé.
Là, dans un premier temps, ce qu'on fait, on prend du sucre et de l'eau qu'on va tasser, une espèce de pâte de sucre qu'on va tasser, qu'on va sécher, qu'on va démouler. On aura une pastille de sucre, par exemple. Et celle-là, on va l'imprégner de l'organogel qu'on aura fait fondre. On laisse refroidir et après, on met le tout dans l'eau. On dissout le sucre et voilà, et ça fait notre matériau pour eux. On a notre capteur.
c'est pas de la grande technologie, c'est assez facile et pas
c'est peu coûteux. De la cuisine.
Ah, c'est presque de la cuisine.
C'est pas coûteux non plus à fabriquer, avec des ingrédients non toxiques. Enfin, si vous voulez, on peut vous montrer après à quoi ressemble le signal.
Ah oui.
Une fois qu'on analyse les odeurs par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse, on a un signal très complexe parce que les odeurs corporelles sont constituées de plusieurs centaines de molécules.
Qu'on pourrait comparer à quoi pour donner une idée visuelle ?
Ben là, on a une forêt de pics devant les yeux qui pourrait affoler certains chimistes. Mais nous, on est content. Plus le signal est complexe et plus il y aura d'informations pour le traitement statistique derrière. La deuxième étape de cet outil, c'est de faire un traitement statistique sur toute l'information et sans nécessairement avoir identifié exactement la structure de chaque molécule. On sait qu'elles vont avoir tel signal, on ne sait pas forcément quelle structure elles vont avoir, mais c'est un traitement mathématique et donc d'un individu à un autre, on retrouve plus ou moins les mêmes molécules, mais dans des concentrations différentes, et c'est ça qui fera la distinction entre une personne et une autre. Alors voilà, quand on a vu l'appel à projet Attentat Recherche, on s'est dit qu'on pouvait utiliser cet outil, alors soit pour confronter des suspects par leur odeur corporelle, mais comme nos matériaux piègent des traces, on s'est dit qu'on pouvait aussi piéger des résidus, par exemple d'explosifs, et que ça pouvait être en lien avec les attentats et le terrorisme.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, on crée un fichier des odeurs corporelles ?
Oui, c'est tout à fait imaginable. Hein. Bon, ces fichiers existent déjà à Écully, en fait. Bon, mais c'est des fichiers qui ne sont pas des fichiers informatiques. Hein. C'est simplement des bocaux dans lesquels sont conservés des tissus imprégnés d'odeurs, soit prélevés sur des scènes de crime, soit de suspects. Mais c'est déjà de l'archivage. Donc, on peut imaginer de faire la même chose, mais informatisé. C'est-à-dire qu'on stockera non plus, je dirais, une odeur dans un bocal, mais en fait, une analyse chimique, hein, une analyse chromatographique, hein, où on montre, où on aura l'odeur. Un peu comme ce qui se fait déjà quand on fait, par exemple, l'analyse chimique pour du dopage, hein, où en fait, on peut très bien archiver hein, des analyses d'urine ou autre. Ben là, ça sera un peu de la même manière. Et on aura, comme ça, archivé l'odeur d'un individu sous forme informatique, hein, sous forme d'un chromatogramme qui, en fait, définira l'odeur.
Un outil dont on comprend bien l'intérêt qu'il peut avoir pour les professionnels de terrain, policiers ou gendarmes, les deux chercheurs l'imaginent plutôt complémentaire que concurrent des dispositifs existants en odorologie et des chiens entraînés par exemple à détecter les drogues. Pour autant, son développement peut soulever à la fois des questions techniques et éthiques dans le domaine criminologique ou judiciaire. C'est la raison pour laquelle Alexandra Terral et Émile Pérez ont fait appel en amont à un autre universitaire, David Vavassori, l'un des responsables du Centre de Criminologie et de Sciences Humaines de Midi-Pyrénées.
Finalement, là, ce qu'on vient questionner, ce qu'on touche du doigt, c'est la question éthique. Dès le moment où on pense procédure judiciaire, champ d'investigation, on ne peut pas faire l'économie de penser le sujet qu'il y a derrière, l'humain qu'il y a derrière. Et quel impact ça peut avoir à la fois sur les professionnels qui vont utiliser de nouveaux outils, comment ils appréhendent, est-ce que ça ne va pas transformer aussi ou donner l'impression d'une toute-puissance professionnelle ? Parce que quand on découvre quelque chose qui est aussi important que l'empreinte digitale, on peut se dire que ça peut résoudre énormément de choses. Bon, donc il y a comment on se positionne par rapport à cette découverte en tant que professionnel, mais surtout comment penser l'impact de ce type d'outil dans une procédure judiciaire pour des personnes qui seront poursuivies, en sachant qu'on n'est pas du côté de la preuve, mais bien de l'accompagnement dans une procédure. Je pense que l'équipe d'Alexandra Terral n'ambitionne pas de créer des preuves d'une culpabilité. Ça, c'est le travail de la justice. Eux, ce qu'ils se proposent, c'est de penser des méthodes de travail, des outils qui accompagnent la procédure judiciaire. Et nous, de notre place, mais d'accompagner la présentation et la construction méthodologique de cet outil dans le rapport intersubjectif, dans le rapport humain.
Si on veut donner quelques exemples, quels pourraient être les cas concrets qui pourraient poser des problèmes d'éthique, par exemple ?
Ben, dès que Alexandra, avec son équipe, ont présenté ce travail, de suite, il y a toute une fantasmatique autour des capteurs de l'organogel, de dire « Ah, on va avoir l'empreinte olfactive du criminel sur la scène de crime. » Non, on a des empreintes d'une personne présente sur une scène de crime ou sur des produits présents sur une scène de crime. Donc tout notre travail, c'est de penser en amont, attention, le rapport, le raccourci entre la présence d'odeur et une culpabilité ne doit pas se faire schématiquement, elle doit être pensée. Et comment elle doit se penser intellectuellement, mais aussi de manière pragmatique, sur le terrain. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on présente? Comment on forme les professionnels aussi à l'utilisation d'outils? Parce que, alors nous, en psychologie, on a cette habitude, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont venus nous chercher, en sciences humaines, de penser l'outil au service du professionnel et non pas le professionnel au service de l'outil. Et là, on est dans la dimension éthique. Comment ne pas réduire une procédure, une investigation à un outil au risque de perdre l'humain derrière? C'est ça l'enjeu. Dans une société actuelle qui tend quand même à rechercher de la technicité, des outils qui facilitent la compréhension, notamment dans un contexte marqué par les attentats, où on a besoin de réponses, et ce désir de réponse peut nous faire dériver sur des abus aussi professionnels qui nécessitent quand même un cadre. Voilà. Et alors, je pense que, même si ça nous semble évident, penser ce cadre, c'est pas quelque chose de spontané. C'est-à-dire de trouver absolument un coupable pour les attentats, c'est quelque chose quand même qui, quand on a été confronté à ces épreuves, peut nous pousser à abuser des outils et des postures qu'on a. Donc c'est tout un enjeu de réflexion, de savoir comment on prend de la distance par rapport à ce qu'on va apporter dans des outils nouveaux. Parce que c'est ça, c'est la nouveauté aussi. Comment gérer cette nouveauté et l'engouement qu'il va y avoir derrière. Donc comment penser cette préparation intellectuel pour ces transformations.
Les inconditionnels du Bureau des légendes auront reconnu le générique de la série culte signée Éric Rochon. Troisième saison en cours de préparation et déjà 20 épisodes d'une saga construite autour des agents de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, avec Mathieu Kassovitz, alias Malotru, son nom de légende, dans le rôle titre. C'est encore un autre projet retenu par le CNRS. Pauline Blisten et Olivier Chopin ont choisi de se pencher sur cette série française et sur l'américaine Homeland, étudier le rôle de ces images de fiction dans le contexte de la lutte antiterroriste, comprendre aussi ce qu'elles disent de la menace actuelle.
Finalement, elles ne disent pas grand-chose du terrorisme en tant que, menace ou processus de radicalisation. Elles prennent toutes les deux un peu pour acquis la menace terroriste, elle est déjà constituée. Ce que l'on voit en revanche à l'écran, c'est la concrétisation de la menace, la manière dont des terroristes très différents peuvent passer à l'action, s'en prendre aux intérêts américains ou français, de manière aussi très différente. Et finalement, ces deux séries se répondent à quelques années d'intervalle et permettent de prendre un peu la mesure de la façon dont on comprend l'impact que peut avoir le terrorisme sur les sociétés qui sont touchées.
Pour asseoir leur crédibilité, les scénaristes ont forcément fait appel, se sont référés aux agents d'une part de la DGSE, aux agents de la CIA de l'autre. Qu'est-ce que ça dit aussi, et de la DGSE et de la CIA, cette façon de s'impliquer finalement dans une fiction, on va dire, grand public?
Alors, côté américain, la collaboration entre la CIA et Hollywood est quelque chose d'assez ancien et d'assez connu. On connaît très bien la collaboration entre le Pentagone et Hollywood, puisque depuis 1948, existe un bureau de liaison à Hollywood qui est chargé de faire donc le lien entre l'industrie du divertissement et le Pentagone. L'équivalent a été mis en place en 1996, à Los Angeles. Et là, l'idée, c'est de promouvoir une certaine image assez positive de la CIA à l'écran. Je rappelle rapidement, on est à la sortie de la guerre froide. La guerre froide est comprise comme synonyme de guerre secrète menée par espions interposés. La CIA y a joué un grand rôle. L'univers imaginaire de la CIA pendant la guerre froide est plutôt négatif. La CIA est un peu chargée de toutes les bavures, de toutes les dérives de ce qu'a été la guerre froide. Et donc il s'agit, à la sortie de la guerre froide, de redorer le blason de la CIA. Redorer le blason de la CIA en passant par la fiction. Il existe en tout cas ce fameux bureau de liaison où l'on peut aller chercher des conseils scénaristiques quand on est scénariste ou réalisateur, des aides à la production. Parfois, vous avez la mise à disposition de décors comme le hall d'entrée de la CIA CIA, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, qui est assez documenté côté américain. En France, c'est totalement contraire à la culture politique, totalement contraire à la culture, je dirais même, du divertissement, dans la mesure où cette idée d'une collaboration entre les secteurs de la sécurité et l'industrie du divertissement, c'est quelque chose qui fait grincer évidemment des dents et qui est perçu assez négativement. Alors, depuis 2010, la DGSE a mis en place un bureau de communication, ce qui est assez nouveau, donc on peut observer un changement dans la stratégie de la DGSE qui tente de mieux communiquer sur ses activités. Alors on voit tout de suite le paradoxe, comment communiquer sur une activité secrète? C'est quand même une question tout à fait passionnante. Pour ce qui est des deux séries qui m'intéressent, je dirais que la communication et la collaboration entre la CIA et l'équipe de Homeland d'une part, la DGSE et l'équipe du Bureau des Légendes est extrêmement variable et s'effectue à différents niveaux. En tout cas, on fait mention dans les différents contacts que j'ai eus avec l'équipe de Homeland, carrément de coup de fil de la Maison Blanche qui demande à l'équipe de Homeland comment ils travaillent sur ces menaces, comment ils imaginent ces nouvelles menaces. Et là, on retrouve quelque chose qui avait déjà eu lieu juste après le 11 septembre, c'est ce grand moment de collaboration des scénaristes, des réalisateurs ont été, entre guillemets, réquisitionnés par la Maison Blanche, par le Pentagone, pour travailler à des futurs scénarios d'attaque, pour essayer d'imaginer ce que seraient les futures attaques terroristes. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, toutes les forces de la nation se sont mobilisées après le 11 septembre, y compris l'industrie du divertissement, pour essayer de travailler à des futurs scénarios d'attaque. Et on peut imaginer que cette collaboration a plus ou moins continué. Là encore, c'est le sujet de mes futures recherches, et donc je pourrais vous en dire plus à ce moment-là.
Est-ce que vous direz que la même chose se passe au niveau français, donc pour le Bureau des Légendes et la DGSE?
Ce qui est intéressant de voir, c'est que juste après le lancement de la saison 2 du Bureau des Légendes, le ministère de la Défense a annoncé un plan de financement qu'il a appelé Plan Défense Cinéma. C'est la marque d'un début de collaboration affichée entre le ministère de la Défense et l'industrie du divertissement. Alors, des allers-retours entre l'équipe du Bureau des Légendes et de la DGSE, certainement. D'ailleurs, Éric Rochand ne s'en cache pas. Il a bénéficié de l'aide de la DGSE pour le Bureau des Légendes. En revanche, il est tout à fait formel. La DGSE n'a pas tenu le crayon des scénaristes. Les scénaristes ont écrit en toute liberté. S'il y a eu intervention de la DGSE, c'est plutôt pour rendre plus véridique l'environnement, notamment l'environnement, je dirais, bureaucratique de ce qui est représenté dans le Bureau des Légendes. Et d'ailleurs, il y aurait en ce moment des boutades qui circulent en interne au sein de la DGSE quant à la véracité de certaines scènes sur des détails aussi bêtes que le type de badge que l'on porte, les cravates d'une personne assez haut placée, etc., etc.
Il est français. Le bourreau, il est français.
Messieurs, la France ne peut pas être la vitrine mondiale de la barbarie.
Les questions sont encore nombreuses dans le champ d'investigation des deux chercheurs. Nous sommes en l'occurrence sur le terrain de l'analyse sociétale, philosophique, et ce sont bien les attentats du 13 novembre qui ont ouvert la porte à cette forme de réflexion. Olivier Chopin en sait quelque chose, lui qui a travaillé sur le sujet de la sécurité depuis des années, mais jusqu'à présent dans une certaine indifférence extérieure.
Si on remet bien la chronologie, les attentats de Charlie n'ont pas généré un mouvement particulier de prise de conscience, soit par l'État, soit par l'université, de la nécessité de travailler ensemble. En revanche, en France, clairement, après les attentats de novembre, bon, il y a eu la réaction du CNRS qui a mené au financement d'un certain nombre de projets transversaux, dont le nôtre sur la définition de la menace ou des réactions à la menace. Donc là, il y a eu une réaction institutionnelle de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'université, du CNRS, consistant à comprendre qu'il fallait, enfin, ou qu'il était peut-être opportun de réfléchir à contribuer à la définition d'un référentiel de sécurité, c'est-à-dire en fonction de quel genre de principe, en fonction de quel genre d'objectif, de moyens, d'ambition, on est capable de définir ce qu'est une politique de sécurité. Et puis la question qui est très prégnante, surtout dans les médias, comment est-ce qu'on définit la menace, comment est-ce qu'on comprend ce qu'est un djihadiste, comment est-ce qu'on comprend ce qu'est un terroriste, comment est-ce qu'on comprend le phénomène de la radicalisation, le rapport entre les violences et les conflits qui se font là-bas, en Syrie, au Mali, dans la zone sahélo-saharienne, et ici, dans nos banlieues, dans nos zones périurbaines, dans nos centres-villes, par ailleurs, en pleine quiétude, à un moment donné, mais dans lesquels il y a des irruptions de violence, que ce soit Paris ou Nice. Donc on a eu un moment de conscience important. J'ai eu le sentiment, pour être de temps en temps en interaction avec les services de l'État, cette fois le ministère de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères, que Nice a été une autre rupture. Là, cette fois-ci, la prise de conscience par l'État actif dans le domaine de la sécurité, que cette fois-ci, effectivement, il était très important de commencer à réfléchir, à lier cette réflexion universitaire, parapublique, scientifique et les moyens de l'État qui sont déployés pour essayer de constituer un peu plus urgemment qu'auparavant une vision plus large du problème. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les sciences policières, les sciences militaires, qui traitent de ces menaces depuis très longtemps, l'État n'a pas attendu les attentats de Charlie ou du 13 novembre pour commencer à se faire une idée de ce qu'est un terroriste, de la façon dont on le devient, et des différentes conditions qui permettent de mener un individu jusqu'à l'idée d'un attentat suicide. Enfin, c'est quand même des parcours de vie extrêmement denses qui sont étudiés depuis très longtemps. Mais ce qu'on comprend, c'est que peut-être maintenant, je reste hypothétique, il y a l'idée que pour bien comprendre ces mécanismes, l'État lui-même, les services de police, de justice, de renseignement, les militaires, ont besoin d'élargir leur horizon, non pas pour perdre leur propre spécificité, leur propre raisonnement, leur propre savoir-faire, mais pour le resituer dans un horizon plus large, parce qu'au fond, les critères qui permettent d'expliquer comment un jeune français de zone périurbaine en Normandie se radicalise tout seul, part en Syrie, revient avec le projet de tuer ses concitoyens, excède largement les catégories classiques de la science policière et commence à devoir mobiliser des questions d'anthropologie, de sociologie, de psychologie sociale, d'histoire, de sociologie urbaine, qui vont être autant de facteurs qui permettent d'essayer de saisir plus largement le phénomène.
Ouvrir de nouveaux horizons à la recherche, une nécessité pour Sophie, victime et rescapée du Bataclan, c'était même l'une de ses motivations personnelles pour participer à l'étude Remember.
Pour tout vous dire, je trouve que c'est aussi un beau pied de nez aux terroristes, parce que quand on est chercheur, on crée de la connaissance. Et que les études qui sont faites post-attentat sur les victimes des attentats ou les cercles élargis qui ont été concernés par les attentats, ça va créer de la connaissance. Et en fait, moi, je me suis fait tirer dessus par des gars qui vivent dans une forme d'obscurantisme, qui en tout cas prônent une société qui est obscurantiste et qui ne favorise pas du tout la création de connaissances et l'apprentissage et l'éducation, etc., etc. Et je me dis que si, grâce à ça, si malgré eux, et grâce au fait que nous, on est dans une société où la connaissance est importante, on arrive à créer de la connaissance grâce aux attentats du 13 novembre. Et d'une certaine façon, on les renvoie dans leur corde en leur disant ça marche pas. Vous avez fait ça, et même avec quelque chose d'aussi horrible, nous, on va créer de la connaissance et de la connaissance positive. Peut-être qu'on arrivera mieux à guérir certaines choses. Là, en l'occurrence, avec l'INSERM, on va mieux connaître le fonctionnement du cerveau. Des historiens vont mieux comprendre comment se fabrique l'histoire, la petite, la grande. Enfin, et ça, je trouve que c'est la plus belle façon, pardonnez-moi l'expression, de leur dire merde.
13 novembre, la recherche contre la terreur, un reportage de Florence Sturm réalisé par Annie Bro. Notre invité ce soir, Thierry Delville, délégué aux industries de sécurité au ministère de l'Intérieur. Alors, vous avez attentivement écouté ce reportage de Florence Sturm qui démontre quand même parfaitement que la réponse au terrorisme ne peut en aucun cas être uniquement policière, militaire, sécuritaire, contrairement à ce que les politiques ont tendance à nous faire croire, Thierry Delville.
La réponse, elle passe bien sûr par les acteurs, les forces de l'ordre sont impliquées au premier chef. Simplement, c'est l'urgence de la réaction qui est souvent mise en évidente et mise dans la lumière. Ce qui est important aussi, c'est de travailler le temps long et la préparation. et le travail avec la recherche, le travail avec le monde de la recherche, qui n'était pas naturel il y a quelques années, s'affirme, se renforce. On a des grands projets de recherche qui sont maintenant lancés, et des programmes de recherche, et même à l'échelle européenne, qui ont été lancés il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous travaillons avec, à l'exemple des trois projets qui viennent d'être présentés, à la fois dans les sciences humaines et sociales, dans le domaine des technologies, avec un certain nombre d'organismes de recherche.
Alors qu'est-ce que vous répondez à ce chercheur qu'on a entendu il y a quelques minutes, Olivier Chopin, qui dit on n'a pas pris en compte peut-être suffisamment vite l'intérêt de travailler avec les scientifiques, et notamment dans les sciences dites molles, les sciences humaines. On n'a pas pris en compte, même après Charlie Hebdo et l'hypercachère, il a fallu attendre vraiment le 13 novembre pour qu'il y ait quelque chose qui se passe.
Je pense que sur ces, alors sur le thème spécifique peut-être du terrorisme, il doit faire référence à des thématiques de recherche où il aurait voulu peut-être voir des enclencher des projets directement. Ces projets-là aujourd'hui sont engagés. Il y a une réaction qui s'est matérialisée par des appels à projets où la protection des agents, la protection des populations, la protection des sites sensibles constitue le cœur névralgique des appels à projets que nous voyons apparaître.
Florence Thion.
Oui, alors justement, dans le champ d'action qui est le vôtre, quels sont les projets, les programmes que vous privilégiez? Comment vous préparez-vous l'avenir, sachant l'enjeu que représente aujourd'hui la sécurité?
Effectivement, la sécurité est un enjeu majeur. Elle se traduit par des travaux de recherche qui vont se décliner dans l'ensemble de l'éventail des besoins. L'important pour définir des axes de recherche, alors je ne parle pas forcément de recherche fondamentale où là on va être bien en amont des besoins techniques, des besoins opérationnels, mais sur les travaux qui sont menés à l'image d'ailleurs de ce qui vous a été présenté, on va travailler sur le champ de la police technique et scientifique, on va travailler dans le champ de l'acceptabilité sociale de tel et tel équipement de sécurité, on va d'ailleurs mixer souvent sciences humaines et sociales, ça a été très bien dit par Monsieur Vavassori dans la présentation du deuxième projet de Toulouse, mixer sciences humaines et sociales et le droit qui était inhérent aussi au développement des technologies de sécurité. Hein, on est bien dans une interaction forte sur ces questions. Donc quelques exemples hein, qui en termes de projets aujourd'hui sont des réalités qui s'étalent sur des périodes qui vont de 2 à 4 ans hein, en général, ce sont des projets de court et moyen terme. On travaille sur l'alerte aux populations, on travaille sur l'intérêt des serious games, ça fait référence à l'exemple qui était évoqué sur le monde du film. On n'est pas complètement ignorant de ce qui peut être intéressant d'intégrer dans nos processus métiers avec l'apport des nouveaux métiers de la vidéo, des technologies de la vidéo.
Serious games en fait sont des jeux qui ne sont pas vraiment des jeux.
Les jeux interactifs mais qui vont servir de base d'entraînement, de plateforme virtuelle pour se préparer à la gestion de l'événement. C'est particulièrement important pour des services d'intervention type RAID, GIGN, mais aussi pour préparer des centres de coordination. Il y a un projet Target dans ce domaine qui existe hein, à l'échelle européenne. On a aussi des travaux de recherche dans le contrôle aux frontières, la modélisation des flux migratoires, la manière aussi de mieux aborder les problématiques de déminage. Voilà, vous voyez, donc il y a tout un ensemble de technologies mais aussi de projets qui sont aujourd'hui engagés.
Tout ça s'inscrit dans une véritable filière industrielle de sécurité, dans un domaine privé par ailleurs.
Absolument. Alors ça c'est relativement nouveau, si vous voulez, la relation. Quand on fait de la recherche, évidemment, on travaille en amont de la commande publique. Là, on n'est plus du tout dans l'achat sur étagère de solutions. Et c'est vraiment l'enjeu de ce travail, c'est de définir une relation qui, avec la communauté scientifique et avec le monde de l'industrie de sécurité, qui en France représente quand même 125 000 emplois, génère 20 milliards de chiffre d'affaires, est un domaine très exportateur. Donc aussi une thématique.
Il y a une expertise française.
Il y a une vraie expertise française avec des beaux fleurons dans le domaine de la biométrie, dans le domaine de l'intégration de technologies avec des sites aux quatre coins du monde qui ont été équipés par des entreprises françaises. Alors, faut bien distinguer les deux, mais on travaille forcément dans le cadre de ces travaux de filière industrielle, sur des volets de recherche. J'étais hier, par exemple, dans une rencontre où on a défini pour la première fois, vous savez que depuis 8 ans existent les programmes d'investissement d'avenir. Donc le ministre de l'Intérieur a rencontré M. Louis Schweitzer qui dirige le commissariat général à l'investissement et il a été décidé il y a peu de temps de créer une ligne sécurité dans les programmes d'investissement d'avenir. Donc là on est sur le deuxième appel à projet, le PIA2, et à partir de 2018 pour quelques années, donc on aura le PIA3 et la sécurité va prendre une part déterminante. Ça veut dire qu'elle est inhérente à l'ensemble des thématiques, l'environnement, les transports. On met de la sécurité by design, si vous me permettez, ou en tout cas en amont de la constitution des nouveaux projets, des nouvelles plateformes, de manière à ne pas réagir après et souvent trop tard.
Est-ce qu'on met de l'éthique aussi ? On entendait dans le reportage de Florence Thiom l'importance, c'était très bien illustré, l'importance de prendre en compte les questions éthiques quand il s'agit de faire de la recherche scientifique en lien avec la sécurité, en lien avec cette problématique des attentats. Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous
c'est essentiel.
Pris en compte,
c'est essentiel, sinon on va arriver à des réponses techniques, purement techniques, qui n'intégreront pas la dimension humaine. Ça a été très bien dit par...
C'est la question de l'humain et l'outil.
Voilà, c'est-à-dire que la sécurité, c'est avant tout une question humaine. C'est un des enjeux pour aussi, d'ailleurs, du développement de l'intelligence artificielle et de la robotisation. C'est comment garder la main sur l'évolution de ces technologies dans une approche où la sécurité reste une question humaine. Et donc la dimension éthique, la dimension juridique, c'est pas parce qu'on a un outil qu'on va forcément l'utiliser. On le voit tous les jours à travers des applications où le cadre juridique limite l'usage, que ce soit pour l'État, mais aussi pour des acteurs privés. Donc on a cette indispensable association dans des équipes projet sur l'acceptabilité sociale d'un outil. C'est pas parce qu'on fait de la reconnaissance faciale, par exemple, que ça existe déjà, qu'on va le mettre partout dans l'ensemble.
S'accommode bien tout ça quand même avec le nécessaire secret qui entoure quand même les programmes de recherche autour desquels vous travaillez? Est-ce que le contrôle citoyen est suffisamment aussi envisagé, pris en compte dès le départ?
Oui, bien sûr. D'abord, ces appels à projets sont publics. Ce sont des appels à projets. Vous allez sur le site de la Commission européenne, vous allez sur le site de l'Agence nationale de la recherche.
Et oui, c'est les développements après qui peuvent...
Et voilà, et après, c'est les résultats.
Les terroristes, eux aussi, savent s'approprier, et souvent très vite, les technologies sur lesquelles vous travaillez. On peut citer les drones récemment, mais il y a certainement d'autres exemples. Alors, comment faire ?
La question pour les responsables de la sécurité, c'est de ne pas vivre soit par... l'aspect technologique, soit par l'aspect juridique, justement, cette asymétrie capacitaire, c'est-à-dire ne pas être en décalage par rapport à ce que l'adversaire est en capacité de faire. Donc il faut vraiment être en mesure de s'adapter et de suivre en permanence ces évolutions technologiques. Donc c'est un enjeu important. C'est un enjeu important, si vous citez l'exemple des drones, dans les travaux qui ont été menés à la création de la filière industrielle de sécurité, qui a été officialisée en 2013, on a procédé à un certain nombre d'expressions de besoins. On a réuni des opérationnels de tous les secteurs, notamment les opérateurs d'importance vitale, les sites sensibles, et on leur a dit quels sont vos grands besoins, quels sont les sujets sur lesquels vous voyez la menace la plus prégnante. Et c'est vrai que la menace drone est apparue comme une menace, d'ailleurs on a vu récemment, malheureusement, sur le théâtre des opérations militaires, des militaires... avec un drone muni d'une charge explosive et donc avec des victimes au bout de cet attentat. Donc on imagine évidemment dans ce cadre-là quelles sont les réponses en contre-mesure et il va falloir développer, alors que c'est pas spécialement, on est content de voir le marché de la sécurité et de la marché des drones se développer, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu les dispositifs chez les industriels et chez les chercheurs de contre-mesure des drones. Et donc il faut aujourd'hui être en mesure de neutraliser des drones. Donc c'est des solutions sur lesquelles on va travailler. Et aujourd'hui, il y a des appels à projets. Il y a eu un appel à projet, notamment sous l'égide du secrétaire général à la défense nationale et de la sécurité nationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie pour apporter des solutions. Un appel à projet a été lancé il y a 2 ans sur ce sujet.
Il y a clairement une course de vitesse, c'est ce que vous nous décrivez avec des moyens qui suivent.
Évidemment, à l'ère de l'Internet, à l'ère des développements des réseaux sociaux, du big data, nous ne sommes pas évidemment les seuls à pouvoir travailler sur ces questions et l'utilisation malveillante de ces technologies, ça ne doit pas être un frein à leur bonne utilisation et à leur développement dans la société civile, mais il faut être conscient aussi qu'en parallèle, il y a des déviances de cette accaparation, de la manière dont on s'accapare ces technologies.
Ce qui peut nous ramener à la question majeure du chiffrement en matière de lutte antiterroriste. Récemment, le procureur de Paris, François Molins, lançait un appel avec ses homologues belges, marocains et espagnols pour dire qu'il faut nous donner les moyens de craquer les téléphones des terroristes.
Oui, alors sur ces questions, sur ces questions de traitement de la sécurité de ces technologies, le chiffrement, vous savez, c'est tout un ensemble aujourd'hui. Il n'y a pas que le chiffrement stricto sensu. Hein. Il y a comment aujourd'hui donner d'abord à l'échelon européen, parce que le problème n'est malheureusement pas que franco-français. Comment déjà avoir une vision partagée et puis de manière plus précise, comment mettre sur un pied d'égalité des opérateurs qui sont implantés et qui sont clairement définis sur le plan juridique et des opérateurs qui ne le sont pas. Ça commence déjà par ce type d'étape et à l'échelle européenne, on s'emploie justement à apporter des réponses sur ce sujet.
Merci Thierry Delville d'avoir accepté de venir répondre à nos questions ce soir. C'était le magazine de la rédaction à retrouver, à réécouter et sur lequel des informations complémentaires importantes et nombreuses sont disponibles sur notre site internet franceculture.fr. 13 novembre, la recherche contre la terreur. Reportage signé cette semaine Florence Turm, réalisation Annie Bro. À la technique ce soir, c'était Bruno Gagnère-Fontanille. Depuis la diffusion de ce magazine le 11 novembre 2016, le procès de la filière dite de Cannes-Torcy s'est tenu devant la cour d'assises spéciale de Paris. Des peines allant jusqu'à 28 ans de réclusion ont été prononcées. Il y a également eu deux acquittements. Florence Turm, vous avez suivi cette audience.
Oui, 17 hommes âgés de 23 à 33 ans ont comparu durant deux mois devant cette cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels puisqu'il s'agissait d'un dossier terroriste. Un dossier passé à l'époque des faits quelque peu inaperçu car l'attentat perpétré contre une épicerie cachère de Sarcelles n'avait fait qu'un blessé léger et il s'était produit en septembre 2012 avant la tuerie de Charlie Hebdo. Jérémy Louis-Sinet, considéré comme le chef du groupe, avait été abattu par les policiers lors de son interpellation. Deux autres des membres de la filière sont partis et restés en Syrie. Et au cours du procès, les débats ont porté non seulement sur les faits mais aussi les personnalités, le cheminement des accusés présents dans le box. Et ces débats ont fait ressortir la diversité de leur profil et de leurs origines, beaucoup de convertis, certes parmi eux, mais venant de familles agnostiques, juives, bouddhistes, chrétiennes, musulmanes, d'où la difficulté de dresser un profil type du djihadiste, de livrer une clé unique de compréhension au phénomène.
Et alors ce qui est intéressant, Florence, c'est que les procès de prévenus ou d'accusés pour djihadisme intéressent grandement justement les chercheurs en sciences sociales.
Oui, précisément pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Au cours du procès, j'ai rencontré un chercheur, Antoine Mégy, maître de conférence à l'université de Rouen et qui, depuis maintenant plus de deux ans, écume littéralement les palais de justice pour suivre toutes les audiences consacrées à des filières dites djihadistes. Pour lui, ce sont de formidables livres ouverts à la fois sur les logiques sociales, politiques et religieuses de l'engagement, mais aussi sur les logiques politique et institutionnelle des autorités judiciaires. Car depuis 2015, de nouvelles législations sont entrées en vigueur. L'état d'urgence vient encore d'être reconduit avec également un nouveau texte en préparation, de nouveaux débats. Depuis 2015, la nature des poursuites a également évolué. Désormais, toute personne de retour de Syrie est susceptible d'être poursuivie devant une cour d'assises. De même, le parquet poursuit beaucoup plus les femmes de retour de Syrie, ce qui n'était pas le cas avant 2016. Enfin, même si ce tour d'horizon n'est pas exhaustif, une nouvelle audience de circuit court a été créée pour juger plus rapidement les infractions et les délits les moins graves, désengorger le stock des procédures qui s'amoncellent. Elle a lieu, cette audience, tous les premiers mardis du mois au Palais de Justice de Paris.
Merci Florence Turm. Cette émission est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr.